Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Coupe du monde de football 2018, le match Colombie-Japon est en cours à Saransk, en Russie. Le score, un partout à la mi-temps. Le premier but a été marqué par le Japon sur pénalty 4 minutes après le début de la rencontre, après que l'arbitre eut donné le premier carton rouge de la compétition au Colombien Carlos Sanchez pour avoir touché du bras le ballon dans la surface de réparation. Les Colombiens ont égalisé à la 41e minute. Le second match de la journée est prévu à 15h temps universel. Ce sera Pologne-Sénégal à Moscou. L'entrée en lice de la dernière équipe africaine qui a encore une chance de bien commencer le premier tour. Les autres ayant toutes perdu leur match d'ouverture. La dernière rencontre au programme ce mardi aura lieu à 18h temps universel. Ce sera Russie-Égypte à Saint-Pétersbourg. Conflit au Soudan du Sud maintenant, le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar se rencontreront en face à face demain mercredi à Addis Abeba en Éthiopie pour la première fois en près de 2 ans. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère éthiopien des Affaires étrangères. Selon Mele Salem, porte-parole de ce ministère, les deux leaders s'entretiendront suite à une invitation de la part du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. En République démocratique du Congo, allocution très attendue du président Joseph Kabila devant le Parlement réuni en congrès. Ce sera demain, alors que l'opposition et l'Église catholique le soupçonnent toujours de vouloir briguer un troisième mandat en décembre prochain. Les détails avec Thierry Kambudi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est ce mercredi 20 juin que s'ouvre au Parlement une session extraordinaire qui sera notamment marquée par l'adresse à la nation du président Joseph Kabila. Une adresse à 6 mois des élections qui suscite de nombreuses attentes tant le chef de l'État, dont le mandat constitutionnel s'est officiellement achevé depuis décembre 2016, n'a jamais voulu dire clairement, comme le lui demandent souvent ses opposants, qu'il ne briguera pas un troisième mandat, se contentant de rassurer qu'il respectera la Constitution. Cette session extraordinaire sera également marquée par l'examen du projet de loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Initié par le sénateur Modeste Mutinga, un soutien à Moïse Katumbi, le projet de loi sur le statut des anciens présidents élus garantit la sécurité de l'ancien président élu, de sa famille ainsi que de son patrimoine. Au plan diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, Léonard Cheikh-Tundu, de retour de Luanda lundi soir après un tête-à-tête avec le président Lorenzo sur le processus électoral en RDC a démenti la tenue annoncée par la presse le 17 juin dernier d'un sommet des chefs d'État sur la République démocratique du Congo, le qualifiant même d'un sommet fantôme. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Ebola en RDC, la Guinée a envoyé du personnel médical à la République démocratique du Congo à la demande de l'OMS. C'est pour, dit Conakry, renvoyer l'ascenseur au pays frère d'Afrique centrale qui fait rage à la 9e épidémie d'Ebola de son histoire. Les Guinéens suivent de très près la situation en RDC, 2 ans après la fin de l'épidémie dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest qui avaient fait plus de 11 000 morts, dont 2 500 en Guinée. Reportage à Conakry de notre envoyé spécial Abdourahman Dia.
Conakry, la capitale guinéenne, s'est relevée du pire épisode de son histoire récente. La ville veut oublier Ebola et peu de gens veulent même prononcer le mot. Le marché de Kaloum, juste après la pluie, grouille de monde comme d'habitude. Ce jeune qui a accepté de nous parler nous dit que les habitants ont changé leurs habitudes grâce notamment à la sensibilisation.
Oui, les populations aussi sont là à respecter les règles d'hygiène. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit au marché, même les gens sont là prêts à quand même à suivre de près. C'est une maladie qui est tellement virale, ce n'est pas possible. Mais c'est le fait que c'est éradiqué là. On ne veut plus maintenant que c'est récidive encore en Guinée.
Et cette bataille contre le retour d'Ebola, elle est dirigée par un homme, le docteur Sakuba Keïta, que l'on surnomme ici Monsieur Ebola. Le directeur du Centre national de sécurité sanitaire nous dit que son pays a appris de cette première épidémie qui a sévi pendant plus de 2 ans.
Il n'y a pas une préparation qu'on peut faire d'un jour à l'autre, mais nous continuerons à nous préparer au fur et à mesure qu'on a de nouvelles connaissances sur cette maladie. Nous continuerons à nous préparer afin que si même elle survenait en Guinée, qu'on puisse la circonscrire en un temps record, parce que la RDC a sa 9e et la Guinée n'a reçu qu'une seule épidémie. Donc nous pensons qu'il y a des probabilités que cette maladie revienne en Guinée et nous nous préparons en conséquence.
En Guinée, plus de 8000 personnes ont été vaccinées contre Ebola, ce même vaccin non encore homologué par l'OMS et utilisé en République démocratique du Congo. Mais pour le docteur Sakuba Keita, son efficacité ne fait pas l'ombre d'un doute.
Non seulement nous on a su l'efficacité sur le plan épidémiologique par sa contribution à l'arrêt de la transmission de la maladie à virus Ebola en Guinée, mais aussi par la publication des résultats des scientifiques qui ont déjà publié cela et montré que ça a une efficacité autour de plus de 95%, ce qui fait qu'aujourd'hui ce vaccin est en première ligne dans nos activités, dans nos mécanismes de riposte contre cette maladie.
Les autorités sanitaires guinéennes sont en état d'alerte et le pays semble mieux préparé en termes d'infrastructures. Les travaux d'agrandissement de l'hôpital Donka de Conakry battent leur plein. Abdourahmane Dia, VOA Afrique, Conakry.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, grave inondation à Abidjan, la capitale, bilan au moins 15 morts. Par ailleurs, les opérations de révision des listes électorales sont en cours depuis lundi. C'est un enjeu politique avant les élections locales de cette année et la présidentielle de 2020. Morgane Guéouillec.
La commission électorale indépendante affirme que 3 millions de personnes en âge de voter ne sont pas inscrites sur les listes électorales qui comptent actuellement 6,3 millions d'inscrits. Les opérations de recensement vont durer une semaine jusqu'à dimanche sur 10 580 sites à travers tout le pays. La plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté a appelé les Ivoiriens à ne pas se faire enrôler. Elle estime que la CEI est composée de manière déséquilibrée en faveur du pouvoir. Le PDCI, membre de la coalition au pouvoir, souhaite aussi une réforme de la commission électorale avant la présidentielle de 2020. Des élections municipales et régionales couplées sont prévues cette année, mais la date du scrutin n'a pas encore été dévoilée.
Burkina Faso, débrayage au ministère burkinabé des Finances, pas de solution en vue, d'où la décision du gouvernement de recruter des volontaires et des retraités pour remplacer les agents qui sont en grève. Mathias Kadiogo, porte-parole de la coordination des syndicats du ministère des Finances, s'insurge contre ces mesures et invite le gouvernement à prendre des initiatives allant dans le sens de la cohésion sociale. On l'écoute.
Ils n'ont fait que faire usage des biens droits fonctionnels qui leur a accordé le droit de grève. Il n'y a aucune disposition dans l'administration burkinabé qui interdit un responsable nommé d'aller en grève pour défendre ses intérêts professionnels. Les agents qui refusent de travailler, ils observent leurs droits fonctionnels de grévés. Donc, si le gouvernement estime que les retraités sont encore opérationnels, ce qu'on a laissé pour qu'ils aient se reposer, si du coup, ce même gouvernement estime qu'ils sont opérationnels et qu'ils peuvent relever de ceci, alors qu'ils s'aventurent sur le terrain. Nous sommes là et nous pensons que le gouvernement a le devoir de prendre des mesures qui vont consolider la cohésion sociale au Burkina Faso.
Mathias Kadiogo, porte-parole des syndicats du ministère des Finances du Burkina Faso. Nigeria, dans le nord-est du pays, révision à la hausse du bilan des attentats qui ont ensanglanté la fête de l'Aïd el-Kébir ce week-end à Damboa, dans l'état de Borno. 43 personnes ont été tuées, selon le dernier bilan annoncé lundi, Bagassi Courant.
Un premier bilan faisait état de 31 morts. D'après Komi Wakil du gouvernement de l'état de Borno, 43 personnes ont perdu la vie dans les attentats qui ont touché ce week-end la ville de Damboa. 12 blessés très graves ont été acheminés par hélicoptère à Maïdougouri, la capitale régionale. Les attaques suicides ont été perpétrées par 6 fillettes âgées de 7 à 10 ans alors que les habitants célébraient la fin du Ramadan. Des djihadistes présumés ont ensuite visé avec des roquettes et des grenades la foule qui s'était précipitée peu après les premières explosions.
Et pour terminer, la politique de tolérance zéro de Washington à la frontière avec le Mexique suscite un tollé. L'administration Trump reconnaît que 2000 enfants ont été séparés de leurs parents qui ont été arrêtés pour être entrés illégalement aux États-Unis depuis la mi-avril. Washington insiste sur le fait que les parents concernés sont des sans-papiers. Mais pour Bakari Tanja de l'African Service Committee, il s'agit de demandeurs d'asile.
Ils viennent avec l'intention de demander l'asile politique. Et tout le monde sait que ces personnes-là sont persécutées par des gangs. Au moins, examiner leur situation en conformité avec la loi et dans des conditions humaines. Le fait de séparer un enfant de ses parents, si c'est pour punir les parents, on finit par causer un traumatisme à ces enfants, ce qui est inhumain. D'autant plus que le Parti républicain se considère comme un champion des valeurs familiales.
Bakary Tandja, militant des droits de l'homme à New York.